Info matin, Nicolas Legrand.
Report des provinciales, abandon pour le moment de la loi sur le dégel du corps électoral. Michel Barnier a évoqué la Nouvelle-Calédonie dans sa déclaration de politique générale. Il a aussi évoqué la méthode pour ouvrir cette nouvelle page consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel. 1h23 de discours, donc, pour dévoiler la feuille de route de son gouvernement sur la politique nationale. Michel Barnier a évoqué la crise budgétaire, mais aussi l'état de droit et l'immigration. Point complet dès le début du journal. Israël sous une pluie de missiles, l'Iran frappe Israël. La majorité des missiles a été arrêtée par le dôme de fer alors que la population avait rejoint les abris. Le sport, 2-2 pour Brest en Ligue des Champions. Le Stade Brestois remporte sa deuxième victoire en deux matchs. Les Bretons sont allés s'imposer 4-0 sur la pelouse du RB Salzbourg ce matin. Quant au Paris Saint-Germain, il est sur la pelouse d'Arsenal, 0-0 à la demi-heure de jeu. En tennis, Arthur Fils a été sacré sur l'ATP 500 de Tokyo. Il s'impose dans la finale franco-française face à Hugo Humbert. La météo, des paquets nuageux circulent et apportent des averses. Les températures maximales sont en baisse. Le mercure aussi entre 25 et 27 degrés, localement 28 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Michel Barnier donc à la tribune de l'Assemblée nationale durant plus d'1h20. Le Premier ministre a prononcé sa déclaration de politique générale. Dans un hémicycle plus que jamais divisé et sous les huées des rangs de l'extrême-gauche, Michel Barnier a dressé la feuille de route de son gouvernement. On va y revenir largement dans ce journal et on va d'ailleurs commencer par le dossier calédonien. Il a consacré 2 minutes 30 à la Nouvelle-Calédonie, un moyen de rappeler l'implication de l'État dans ce dossier.
Si vous me le permettez, je voudrais, mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie, dont je salue amicalement et cordialement les élus qui sont ici. Depuis maintenant 4 mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les fonctionnaires de l'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel.
Et Michel Barnier a ensuite annoncé la méthode pour reprendre le dialogue politique et notamment l'envoi d'une mission de concertation et de dialogue en Nouvelle-Calédonie. Elle sera pilotée par les deux présidents des parlements, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat.
Ce travail sera conduit dans le respect des convictions de chacun et du respect de la diversité du peuple calédonien et des principes démocratiques. Je m'y emploierai personnellement et je veux aussi vous remercier, Madame la Présidente, remercier le président du Sénat, puisque vous avez accepté tous les deux de conduire une mission de concertation et de dialogue qui se rendra en Nouvelle-Calédonie prochainement. Afin de garantir une gestion dans la durée de l'ensemble des enjeux calédoniens, les discussions ont été depuis quelques jours et seront soutenues à Paris et en Nouvelle-Calédonie par une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre de l'Outre-mer.
Le Premier ministre a ensuite annoncé l'abandon de la révision constitutionnelle dégelant le corps électoral, le report des élections provinciales et des discussions à Paris autour du président Emmanuel Macron.
Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre.
Et les deux députés calédoniens ont assisté dans l'hémicycle à cette déclaration de politique générale. Dans un communiqué, Nicolas Metzdorf a estimé que le Premier ministre était passé à côté des priorités des Calédoniens. Il évoque même une feuille de route déconnectée de la réalité. Écoutez sa réaction.
Une déception, puisque le Premier ministre n'a pas parlé d'annonce budgétaire pour la Nouvelle-Calédonie, alors que c'est quand même l'urgence absolue d'aider nos entreprises, d'aider nos salariés à subvenir à leurs besoins. Et puis il a parlé en plus du congrès de Versailles sur le dégel du corps électoral. Il a dit qu'il ne réunirait pas le congrès de Versailles. alors que ce n'est pas sa compétence, c'est le président de la République qui décide de convoquer ou pas, ce n'est pas le Premier ministre. Donc il est passé à côté de sa déclaration de politique générale sur la Nouvelle-Calédonie, il s'est fait applaudir sur le sujet par la France insoumise et il a eu un tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon, qui démontre que quand même il n'a pas saisi toute la gravité du dossier. C'est pas faute d'expliquer les choses, mais apparemment il faudrait expliquer 2 à 3 fois plus. Donc on sait ce qu'on va faire. Je devais rentrer en Nouvelle-Calédonie, je pense que je vais rester pour continuer de faire de la pédagogie et de réexpliquer les choses. Et s'il faut s'énerver un petit peu, on va s'énerver un petit peu.
Nicolas Metzdorf assure que Gabriel Attal et Gérald Darmanin ont montré leur désaccord sur le volet calédonien de cette déclaration de politique générale. Le député de la première circonscription a prévu de demander d'ailleurs un entretien avec Michel Barnier dans les prochains jours. Et au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert, Nicolas Metzdorf a évoqué les prochaines discussions.
Jamais je laisserai la chaise vide à une table de négociation, jamais. Je serai toujours là. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il va faire une réunion pour parler d'économie et de social, parce que c'est l'urgence. Et que oui, dans un second temps, on décale les élections provinciales pour parler du reste, et qui est important aussi. Mais on ne peut pas commencer par dire on ne fait pas le dégel du corps électoral. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, ils sont où les Calédoniens qui ont été victimes des exactions dans le discours du Premier ministre? Ils sont où les Calédoniens victimes dans son discours? Pas un mot sur un soutien financier. Et en plus, on leur explique que ceux qui ont cassé ont eu raison de casser parce qu'on ne va pas convoquer le Congrès de Versailles. Où sont les Calédoniens victimes des exactions dans le discours du Premier ministre? Nulle part.
Et de son côté, le député indépendantiste de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, s'est lui montré plutôt satisfait des annonces faites par Michel Barnier.
Je pense que c'est déjà le signe qui nous permet d'aller au-devant de nos compatriotes avec la reconnaissance que l'État prenne ses responsabilités sur la sortie de crise et la reprise des discussions institutionnelles. C'est surtout ça, c'est le fait de prendre ses responsabilités quant au fait de ne pas représenter le texte au Congrès de Versailles. C'est quelque chose qui était attendu. Et puis après, dans le même temps qu'il y a les reprises de discussions institutionnelles, le report des élections provinciales, au pays, il y avait 2 options qui étaient prises par les indépendantistes. C'était pas tranché. Il y a des annonces, après, il faut juger sur acte. Hein. On ne peut pas être juste suspendu aux lèvres de M. Barnier en se disant que la situation va s'apaiser de fait.
Et j'ajoute que la délégation interinstitutionnelle calédonienne présente à Paris pour sensibiliser les responsables politiques nationaux au plan quinquennal de reconstruction était présente pour assister à cette déclaration de politique générale du Premier ministre. Il est 6h38, on continue à parler justement de cette prise de parole du Premier ministre après la pub avec les enjeux nationaux, l'état de droit ou encore l'économie et les finances.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh.
Avec Bonus Répar, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco, avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répar, c'est tout bonus.
Bonus Répar est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Chez Cheval Distribution, ils se régalent. Vous économisez. Faites plaisir à vos compagnons à quatre pattes avec notre promo spéciale. Profitez des croquettes Friskies 10 kg pour chat, des croquettes One pour chiens et chats et du délicieux pâté Félix pour chat au prix promo jusqu'au 6 octobre. Rendez-vous vite chez Cheval Distribution Bellevie. Ils se régalent. Vous économisez. Ayez le réflexe. Cheval Distribution, votre animalerie-jardinerie ouvert tous les jours.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et on va revenir donc sur cette heure 23 de discours, hein, au travers de sifflements, de quolibets et parfois d'injures. 1h23 pour ratisser tous les sujets de la politique nationale. On a vu le volet calédonien il y a quelques instants. Du déficit à la fin de vie, en passant par les retraites, la revalorisation du SMIC, une mise au point sur l'état de droit et tout un volet sur la sécurité et l'immigration. Avec une ligne principale, plus de fermeté, Arthur Delaborde.
Effectivement, le Premier ministre veut d'abord des forces de l'ordre plus présentes sur le terrain.
Sur ce point, nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Ainsi, dans chaque département, Michel Barnier va demander un plan d'action à la police et à la gendarmerie. Le chef du gouvernement promet aussi de durcir la réponse pénale.
Nous proposons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits.
Michel Barnier insiste sur les réponses à apporter face à la délinquance des mineurs avec des pistes proches de celles déjà évoquées par son prédécesseur Gabriel Attal, notamment la remise en cause de l'excuse de minorité ou la création de comparutions immédiates pour les plus de 16 ans quand il s'agit de faits graves. Par ailleurs, le Premier ministre a voulu clore une polémique.
La fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit.
Des mots qui sonnent comme une réponse aux propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dans le JDD a jugé que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le volet économique et social était lui aussi très attendu. Dans les annonces, la revalorisation de 2% du salaire minimum qui serait effective au 1er novembre et non plus au 1er janvier. La réforme des retraites qui pourra connaître des aménagements en concertation avec les partenaires sociaux. Et puis il y a la crise budgétaire et la question donc des impôts. Une priorité, la réduction de la dette et du déficit public. Des propositions apparues un peu courtes, Barthélémy Philippe.
Michel Barnier a placé la lutte contre la dette et le déficit public en tête de ses 5 chantiers. Il a donc abordé le sujet avec gravité.
La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière. Et si on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice.
Après le constat, l'objectif a été fixé par le Premier ministre.
Ramener le déficit à 5% en 2025, pour revenir sur le plafond de 3% en 2029.
Le dernier plan de stabilité budgétaire qui prévoyait un déficit à 4,1% du PIB en 2025 et un retour sous les 3% dès 2027 n'est donc plus d'actualité. Mais c'est sur la question des moyens d'atteindre ces objectifs que Michel Barnier a paru moins convaincant. Il prévoit de réaliser 2/3 des économies nécessaires via la réduction de la dépense publique et le reste par des augmentations d'impôts. Sur ce dernier point, le Premier ministre a confirmé que l'essentiel porterait sur les grandes entreprises et les grandes fortunes. Quant aux économies, le refrain a des airs de déjà-vu. Lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chasse aux doublons administratifs ou encore regroupement de certains opérateurs publics comme Business France et Atout France. Ce sera sans doute trop court pour sauver un pays au bord du précipice budgétaire.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Évidemment, les parlementaires ont réagi très rapidement, tour à tour, Isabelle Pelletier.
Oui, Marine Le Pen s'est exprimée à la tribune juste après Michel Barnier devant l'Assemblée nationale. Marine Le Pen qui ne censurera pas Michel Barnier dans l'immédiat, même si elle fixe quelques lignes rouges tout en temporisant et jouant la carte de la responsabilité.
Par patriotisme, par égard pour nos compatriotes qui souffrent, par respect de nos institutions et compte tenu de la tâche ingrate qui vous incombe, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos.
Le Rassemblement national ne jugera le nouveau gouvernement qu'à ses actes et jamais, dit Marine Le Pen, sur la base de postures puériles. Pour autant, pas question d'offrir un blanc-seing à Michel Barnier. Le RN fixe 3 lignes rouges. Pas d'augmentation d'impôts sur les classes moyennes et populaires, l'introduction du scrutin proportionnel aux élections législatives et l'assurance d'un changement profond de la politique pénale.
Lancez la construction des places de prison qui nous manquent, rétablissez les peines planchers et la double peine pour effacer d'un même geste la culture de l'excuse, le règne de la récidive et les tragédies suscitées chaque semaine par l'impunité dont bénéficient les criminels étrangers.
Marine Le Pen se laisse ainsi la possibilité de censurer dans quelques mois un gouvernement qu'elle qualifie de circonstance, le temps pour elle, comme elle l'affirme, de continuer à préparer l'alternance. La Macronie, elle, se déchire sur le cap fixé par Michel Barnier, notamment sur les questions de sécurité ou encore de budget. Elle soutient le Premier ministre, mais pas sans quelques appréhensions. Dès le début de son discours, Gabriel Attal reconnaît des divergences profondes avec certains membres du gouvernement, mais il appelle à l'unité.
Le clivage majorité-opposition doit être dépassée au profit d'un nouveau clivage. Ceux qui veulent agir concrètement et ceux qui ne le veulent pas.
Soutien affiché donc, mais à certaines conditions. Pour le groupe Renaissance, pas question d'augmenter les impôts pour les grandes entreprises, par exemple, une éventualité pourtant évoquée par Michel Barnier, mais rejetée en bloc par Gabriel Attal.
Moins de dépenses et certainement pas plus d'impôts. Même en affirmant ne cibler que les très grandes entreprises, on peut menacer des millions d'emplois et des milliers de sous-traitants.
D'autres encore sont sceptiques sur le volet sécuritaire. Par exemple, Michel Barnier devra donc convaincre texte par texte la gauche et la droite du camp présidentiel. À gauche, et les filles affirment vouloir censurer le gouvernement et destituer le chef de l'État. On écoute la présidente du groupe et les filles, Mathilde Panot.
Nous avons gagné ces élections en déjouant tous les pièges. Nous devons gouverner. Mais c'est donc vous, Monsieur Barnier, qui avez été nommé. Vous, issu d'un parti ultra-minoritaire, dont le score de forme oscille entre 5 et 6% des suffrages exprimés.
Toujours à gauche, si le pouvoir a quitté l'Élysée, il n'est pas à Matignon désormais, il est ici au Palais Bourbon. C'est ce qu'a affirmé le chef des députés socialistes Boris Vallaud. La chef du groupe écologiste et social Cyrielle Chatelain a lancé un avertissement à Michel Barnier. Votre gouvernement a une durée de vie limitée du côté des communistes. André Chassaigne a taclé un programme qui est selon lui une potion à base d'injustice, d'insécurité et d'instabilité. Le Premier ministre a achevé son discours largement ovationné à droite. On écoute maintenant le patron du groupe Droite Républicaine, Laurent Wauquiez.
Dans notre histoire, il y a toujours eu cet espoir. Il faut être les Républicains d'aujourd'hui dans un pays qui en a tant besoin. Faire œuvre utile, avec courage et détermination, c'est ce à quoi nous allons nous atteler autour de Michel Barnier pour mener cette politique de changement.
Laurent Wauquiez, et puis plus au centre, le patron du Modem, Marc Fesneau, a réaffirmé l'attachement de son parti à des mesures de justice fiscale. Le chef du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, hein, Laurent Marcangeli, a invité à ne pas céder au réflexe d'augmenter les impôts de façon indifférenciée, mais il s'est dit ouvert à quelques ajustements conjoncturels sur la fiscalité.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h47.
Un mot d'actualité à l'étranger maintenant. Israël sous une pluie de missiles iraniens, au moins une centaine de missiles lancés cette nuit pour nous sur Israël. Il y aurait pour l'instant une victime à déplorer. Il s'agirait d'un Palestinien vivant en Cisjordanie. Israël s'attendait à cette attaque puisqu'elle avait été prévenue par les États-Unis quelques jours plus tôt. La population civile avait été invitée à rejoindre les abris dans quasiment tout le pays. Mais alors, quelle est la situation sur place à l'heure actuelle? À Tel Aviv, on retrouve Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe.
Eh bien, vous parliez des abris. Justement, la population peut désormais sortir de ces abris. Au total, plus du quart nord-ouest du pays a été ciblé par ces tirs de l'Iran, de Haïfa dans le nord à Jérusalem, en passant par la région de Tel Aviv. On parle pour l'instant de 2 blessés légers après ces frappes. Ici à Tel Aviv, de fortes explosions ont été ressenties dans le centre où je me trouve actuellement. L'armée israélienne affirme que la plupart des missiles ont été interceptés par le dôme de fer, mais aussi le bouclier de David, autre système de défense aérien plus adapté pour faire face aux missiles balistiques longue portée comme ceux tirés ce soir. Israël a fermé son espace aérien, suivi par la Jordanie et l'Irak. Un peu plus tôt dans la soirée, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, avait mis en garde à la télévision d'une attaque imminente de grande ampleur de l'Iran, appelant les Israéliens à respecter les mesures de sécurité. Les rassemblements publics sont limités, les écoles fermées dans le nord d'Israël jusqu'au 5 octobre au moins. Alors ce soir, après cette première salve de missiles, d'autres pourraient suivre, indiquent les services de renseignement. Parmi les cibles de l'Iran, 3 bases militaires et un quartier général du renseignement en région de Tel Aviv, selon des sources militaires israéliennes interrogées par le New York Times. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne assurent que leur attaque de ce soir est une réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, a noté qu'un conseil de défense se tient actuellement à l'Elysée pour évaluer la situation. Le Premier ministre Michel Barnier s'inquiète d'une escalade et juge la situation extrêmement sérieuse. J'ajoute enfin qu'Israël, le Liban et l'Irak ont annoncé la fermeture de leur espace aérien. 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Ce sera juste après la pub et on reviendra notamment sur la reddition de 6 personnes en 2 jours à Saint-Louis.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
Excellent début de journée. La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on revient donc, je le disais, sur cette série de redditions à Saint-Louis. Lundi, 5 individus recherchés s'étaient rendus et hier matin, c'est donc une 6e personne qui s'est présentée à la gendarmerie et c'est une avancée importante pour la sécurisation de cette partie du territoire, Isabelle Pelletier.
Oui, une 6e reddition donc hier matin à Saint-Louis, celle d'un individu qui était recherché pour des tirs sur gendarmes. Lundi déjà, 5 individus qui faisaient l'objet d'un mandat de recherche pour des tirs contre les gendarmes. Les carjackings ou l'incendie de l'église de Saint-Louis s'étaient rendus à la gendarmerie. Le procureur de la République, Yves Dupas, était en direct dans notre studio hier midi. Il a tiré les enseignements de ces redditions.
C'est une étape très importante pour nous. C'est bien évidemment procéder à des interpellations sans risque d'affrontement, hors de cette logique d'affrontement infernal que nous avons vécu, que les gendarmes ont dû gérer. Hein. Et par ailleurs, c'est un signe aussi que chez ces jeunes délinquants, il y a peut-être une admission d'un principe, la justice doit passer. La justice doit passer, donc je dois venir m'expliquer, bien sûr sous l'influence des autorités coutumières qui ont eu un rôle très positif.
Ces redditions sont un élément important parce qu'elles évitent des interpellations par la force, indique le procureur de la République. Et Yves Dupas a précisé le profil de ces 6 personnes qui ont choisi de se rendre.
C'est 20, 25, 40 ans, donc mis en cause dans des faits criminels, hein, des tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles avec des tirs au moyen de leurs armes à feu. C'est effectivement la destruction par incendie de l'église de Saint-Louis et des locaux du presbytère. C'est aussi des carjackings avec, pour certains vols de véhicules, l'usage d'armes, donc des vols avec armes, donc des faits très graves, et puis des personnalités aussi qui, pour certaines, en tout cas, présentent une forme de dangerosité dans une action un peu jusqu'au boutiste contre les gendarmes, contre les représentants de l'État.
Des personnes un peu radicalisées, on peut employer le terme ?
Oui, une radicalisation violente, une détermination à aller jusqu'au bout. Chez certains jeunes, il y a une forme de destinée tragique, hein, où on peut aller jusqu'à la mort. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, ce qui inquiète leur famille et certaines autorités coutumières.
Ce sont au total 9 personnes recherchées qui ont décidé de se rendre. Le procureur de la République précise que 4 personnes sont encore recherchées, mais elles sont mises en cause pour des faits moins graves et elles ont une dangerosité moins importante, dit-il. Des redditions qui peuvent également avoir une conséquence sur la sécurisation de la RP1. Nous avons demandé au procureur de la République si désormais on pouvait envisager la levée des verrous et la libération de la route.
Alors moi, je crois que, bien évidemment, ces redditions vont avoir un impact positif. Je pense au monde rien, je pense aux gens de Yaté qui ont su patienter dans leur triste sort hein, depuis plusieurs mois. Effectivement, la fin de cette logique, cette spirale d'affrontement avec les forces de l'ordre, avec l'ensemble de ces redditions, devrait conduire à la réouverture de cet axe de la route du Sud. Mais c'est bien évidemment la responsabilité du haut-commissaire. En tout cas, c'est une étape très importante pour l'ensemble des habitants de ces secteurs.
Et le haut-commissariat a indiqué hier après-midi que la décision n'a pas encore été prise concernant la réouverture éventuelle de la RP1.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien avec le procureur de la République sur notre site internet. En bref, à la vallée du Tir, la Salanéoui, de nouveau incendiée hier après-midi vers 16h. Les pompiers sont intervenus sur un départ de feu dans les vestiaires qui étaient déjà détruits. À ce jour, ça fait près de 20 fois que le gymnase est victime d'exactions. C'est une procédure assez rare qui a été engagée par la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Lundi soir, elle annonçait par communiqué avoir engagé une procédure à l'encontre de Mathias Chocha, dont elle condamne avec la plus grande fermeté les propos qu'il a tenus lors du conseil d'administration du 27 septembre, Isabelle.
Ce qui est en cause, ce sont des propos que le professeur de droit public a tenus après les exactions survenues sur le campus de Nouville dans la nuit du 25 au 26 septembre. Devant le conseil d'administration, Mathias Chocha a justifié l'agression du vigile, les 2 incendies criminels et la tentative d'incendie avorté par le lien de filiation entre un enseignant-chercheur de l'UNC et une autorité publique qu'il accuse d'être à l'origine du démontage des installations érigées devant le Sénat coutumier. Toujours selon ce communiqué, concomitamment à ses propos provocateurs et agressifs tenus devant les administrateurs de l'université, Mathias Chocha a par ailleurs délibérément choisi de diffuser ses arguties sur le réseau social X. Et le même jour, il a été fait publiquement grief à Mathias Chocha de faire œuvre de propagande publique durant ses cours au lieu d'enseigner sa matière. Des propos et des agissements jugés inacceptables et c'est la raison pour laquelle la présidente de l'UNC a demandé à l'administration de l'université d'entamer une procédure à l'encontre du professeur de droit public. Une démarche assez rare, reconnaît Catherine Ries, la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
C'est une procédure assez rare au niveau de l'UNC et des universités en général. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai entamé une procédure au sein de l'administration de l'université pour voir quelle est la suite à donner à cette affaire, si on peut le dire comme ça. Pour l'instant, la procédure n'a pas débuté, sinon la saisine des services de l'université pour dire quelles sont les démarches à faire.
Ce qui vous a incité à faire ça, c'est l'émotion qu'a pu susciter cette affaire, comme on va l'appeler, au sein même de l'université.
Au-delà de l'émotion au sein de l'université et de son effet sur la communauté universitaire qui, dans un contexte comme le contexte d'extrême tension qu'on connaît actuellement, a besoin d'être unie et d'être sereine. C'est également l'impact que ça peut avoir sur l'image de l'université, l'image de l'établissement, où je pense le respect, la rigueur, le respect des personnes sont des valeurs qui doivent prévaloir et dont nous avons une responsabilité collective.
Des procédures sont donc ouvertes pour permettre de qualifier les faits, propos et agissements de Mathias Choucha qui auraient été de nature à porter atteinte à l'image de l'université, ainsi qu'à l'honneur et à la probité académique et scientifique des enseignants. Les sanctions encourues peuvent être une mise en garde, une mise en demeure, voire une suspension. Mais c'est une procédure qui prendra un certain temps.
En bref, la sécheresse et les nombreux incendies de ces dernières semaines poussent les communes à prendre des décisions fortes. C'est le cas notamment du Mont-d'Or. La ville interdit depuis le début de semaine et jusqu'au 31 mars l'utilisation du feu à usage non domestique. Par usage non domestique, l'arrêté municipal entend les feux de broussailles, de jardinage, de camping et d'écobuage. Tous les contrevenants s'exposent donc à des poursuites et à une amende. La ville rappelle par ailleurs que vous pouvez contacter directement le centre de secours et d'incendie du Mont-d'Or au 43 68 04, le 43 68 04.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Après la reddition des principales personnes recherchées à Saint-Louis pour des tirs contre les gendarmes, des carjackings et l'incendie de l'église de la Mission, faut-il selon vous rouvrir la circulation sur la RP1? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 78% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les organisateurs de la foire de Bourail ont eu raison d'annuler l'édition 2024. Ils sont donc 22% à penser qu'ils ont eu tort. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et enfin, un rendez-vous sur notre antenne. On va parler d'un rendez-vous qui est bien maintenu. C'est Bruno Aurelio, le gérant de la société Pacific Fair, qui sera notre invité ce matin. La Foire du Pacifique ouvre en effet ses portes vendredi. 250 exposants seront présents, place de la Moselle jusqu'à dimanche soir. Bruno Aurelio, invité du matin, c'est donc à partir de 7h30, tout à l'heure, sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. 6h57, on va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cafards, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Bénéficiez de nos offres chez Toyota jusqu'au 30 novembre. Économisez jusqu'à 34% sur l'achat de votre Toyota. Le nouveau Toyota Hilux simple cabine à partir de 2 295 000 francs. 2 295 000 francs. Le Toyota Hilux King Cab à partir de 2 495 000 francs. 2 495 000 francs. Le Toyota Land Cruiser à partir de 3 395 000 francs. 3 395 000 francs. Et le Toyota Yas à partir de 2 395 000 francs. 2 395 000 francs. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre tant qu'il est encore temps. Jusqu'au 30 novembre. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La dernière partie de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on joue ce matin la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football. Deuxième journée, deuxième victoire pour Brest sur un score sans appel. Pour leur première participation dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Bretons ont battu en Autriche le RB Salzbourg 4-0. En revanche, ça se passe difficilement pour le Paris Saint-Germain qui est logiquement mené sur la pelouse d'Arsenal à la mi-temps. 2-0, une première période très difficile pour les Parisiens, globalement dominée dans tous les compartiments du jeu par des gunners volontaires et appliqués. Le PSG qui s'est montré trop statique pour être dangereux dans cette première mi-temps. Il reste donc 45 minutes à jouer. Dans les autres rencontres, on signalera que le FC Barcelone mène 3-0 face au Young Boys de Berne et que l'Inter Milan mène 1-0 face à l'Étoile Rouge Belgrade notamment. On est donc à la mi-temps sur ces autres rencontres. En tennis, Arthur Fils a été sacré dans la douleur. Il a remporté la finale franco-française de l'ATP 500 de Tokyo. Il a été touché à une cheville dès le premier set. Il est le premier joueur toutefois à battre Hugo Humbert lors d'une finale. Arthur Fils s'impose 5-7, 7-6, 6-3.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Et on termine ce journal avec la météo, Thierry.
Oui, Nicolas, ce matin sur la côte est, le soleil sera bien présent ailleurs et notamment sur l'Oise. Il sera souvent contrarié par des remontées nuageuses accompagnées de quelques averses. Les éclaircies seront plus larges au Loyauté. Alors le vent pour ce matin sera orienté sud, il sera compris autour des 10 nœuds, voire sur la pointe nord et le nord-ouest autour des 15 nœuds. La côte est sera souvent déventée. Cet après-midi, porté par un flux modéré de secteur sud, des paquets nuageux parfois accompagnés d'averses continueront de circuler sur le territoire. Des averses formées sur le relief déborderont par endroits sur la côte est où le ciel se fera plus nuageux. Le vent toujours au sud pour cet après-midi, cette fois autour des 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et le nord-ouest. La côte est demeure toujours déventée. Les températures maximales pour terminer, elles seront comprises entre 25 et 27 degrés, localement 28 degrés. Ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.